Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans notre rubrique Un jour dans l'histoire, nous recevons, dans la série d'émissions que nous faisons sur Napoléon et l'Empire dans les années 1807, 1808, 1809, le professeur Jacques-Olivier Boudon, qui est professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à la Sorbonne et également président de l'Institut Napoléon. Il va nous parler de la relation assez ambiguë, assez complexe de Napoléon Bonaparte et du pape Pie VII. Cette relation s'établit dès le Concordat de 1801 et ensuite, au moment du sacre, où le pape sera quasiment mandé pour venir sacrer l'empereur. À partir de cette période, déjà, est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté dans les relations ?
L'ambiguïté dans les relations entre Napoléon Bonaparte et Pie VII, elle date finalement des débuts de leur relation, depuis le Concordat, puisque les deux hommes ont intérêt à s'entendre. Napoléon, parce qu'il a besoin d'une reconnaissance par la puissance spirituelle que représente le pape, et Pie VII, parce qu'il est très amoindri en 1800-1801, il vient juste de retrouver Rome et ses états, et il sait aussi que la plupart des catholiques d'Europe, c'est-à-dire ceux de France, mais aussi de Belgique, de l'ouest de l'Allemagne, une partie des catholiques italiens, puisque l'Italie est passée sous domination française, que ces catholiques, finalement, sont entre les mains de Napoléon, et il sait aussi qu'il ne pourrait pas grand-chose contre une armée française qui, comme elle l'avait fait en 1797-1798, viendrait à Rome. Donc il a tout intérêt lui aussi à négocier avec Napoléon. Et finalement, c'est cette négociation qui va conduire à la pacification religieuse. On peut penser à ce moment-là, en 1801-1802, que les relations seront facilitées par le Concordat. Et de fait, deux ans plus tard, en 1804, Napoléon invite le pape pour le sacre. Le pape accepte de venir. Il a hésité, bien sûr, mais il se dit que venir à Paris, accepter la demande de Napoléon, c'est aussi une manière d'espérer des compensations. Et à ce moment-là, il espère en particulier faire abolir les articles organiques qui sont une sorte de carcan pour l'Église de France. Bon, il n'y parvient pas. Il rentre bredouille à Rome. Pas si bredouille que ça, quand même, parce qu'il s'est aperçu entre la fin du mois de novembre 1804, lors de son arrivée à Fontainebleau, où il est quelque peu humilié par Napoléon, qui va le saluer. C'est la fameuse scène où Napoléon oblige le pape à descendre de voiture dans une allée de la forêt de Fontainebleau complètement couverte de boue. Donc c'est une humiliation, mais en même temps, c'est une satisfaction pour le pape de constater que au cours de son séjour, il va visiter de nombreuses paroisses, de nombreuses églises. Il est très populaire et finalement, il est un des premiers papes à visiter la France et à se rendre compte que les fidèles français lui sont favorables.
Oui, parce que c'est une situation d'apaisement tout ça, parce que la Révolution française a quand même porté des coups sérieux à l'Église catholique dans les moments les plus dramatiques de la Révolution.
L'Église est totalement ébranlée, elle est divisée. En 1800, lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, elle est totalement divisée entre constitutionnels et réfractaires. Beaucoup d'édifices ont été abandonnés, vendus comme biens nationaux. La pratique a certes repris, mais enfin, elle s'est beaucoup affaiblie pendant la Révolution. La papauté doit à cette élection d'avoir retrouvé une tête, mais il faut rappeler que son prédécesseur, Pie VI, est mort en captivité en France à Valence, et qu'à ce moment-là, la papauté n'existe plus, quasiment.
Quasiment.
Oui, elle est quasiment détruite, et on pourrait même penser qu'elle ne ressurgira pas, qu'elle ne revivra pas. Bon, il y a bien sûr des cardinaux, il y a un clergé, mais on pourrait envisager à ce moment-là des églises nationales et plus d'églises universelles, en tout cas conduites par...
Donc la puissance pontificale est plutôt périssante à ce moment-là.
Elle est alors mal en point. Et c'est justement un des effets des négociations avec Napoléon, du Concordat, qui vont lui permettre de se remettre en selle. D'un certain point de vue, c'est ce qu'on peut dire.
Jacques-Olivier Boudon, il y a quelque temps, vous avez publié un ouvrage chez Fayard, extrêmement intéressant, « Napoléon et les cultes ». Bonaparte n'était pas si je puis m'exprimer ainsi, un catholique de choc.
Non, c'est un homme des Lumières qui se considère comme un disciple de Rousseau. Il s'est beaucoup interrogé sur Dieu, sur la religion, mais lui-même se considère, on pourrait dire, comme un agnostique. En même temps, il a conscience que la religion est un élément essentiel pour la société, pour l'ordre social. En cela, il est aussi un disciple de Rousseau. Et étant chef d'un État catholique, il fera écrire dans le préambule du Concordat le catholicisme est la religion de la grande majorité des citoyens français. Donc il se considère comme le chef d'État d'un État majoritairement catholique. Et donc, il doit montrer l'exemple et il pratique la religion catholique. Ce qui veut dire qu'il va à la messe. Alors dès 1802, alors que le Concordat vient d'être promulgué, il fait réinstaller une chapelle aux Tuileries. Il va à la messe le dimanche, en tout cas lorsqu'il est à Paris. Il réorganise en 1804 un service de la grande aumônerie comme il en existait un dans la monarchie d'Ancien Régime. Il se fait évidemment sacré le 2 décembre 1804 et puis il continuera à pratiquer jusqu'à sa mort, pourrait-on dire, mais sans jamais communier. La grande différence, par exemple, avec son neveu Napoléon III qui se placera dans ses traces, c'est que lui ne communie jamais et ne communiera pas non plus au moment de sa mort.
Il aura l'extrême onction néanmoins.
Oui, tout à fait. Il est entouré par un abbé, l'abbé Vignali, qui lui donne l'absolution et lui accorde donc les derniers sacrements.
Revenons à 1809, si vous le voulez bien. La réponse du pape à l'annexion des États pontificaux en 1809, c'est l'excommunication de Napoléon. Et alors là, il y a une procédure assez étonnante, si vous voulez bien l'évoquer.
Alors il y a un engrenage dans les relations entre Napoléon et le pape. À partir de 1806, Napoléon considère que le pape s'est mal comporté dans la guerre qu'il a opposée à l'Autriche. Et donc il a commencé à faire envahir ses États. Puis progressivement, les États du pape sont occupés militairement par les Français jusqu'à la décision de 1809 de les intégrer à l'Empire, c'est-à-dire que les États du pape deviennent une partie intégrante de l'Empire. Et ce, alors on peut y trouver plusieurs explications, mais il faut rappeler que ça s'inscrit dans le cadre de l'application du blocus continental et dans le cadre de la volonté de Napoléon de contrôler les côtes, en l'occurrence les côtes adriatiques et méditerranéennes. Face à cette décision de Napoléon d'intégrer Rome et ses environs à l'Empire, le pape réagit par une bulle d'excommunication, la bulle cum memoranda, qui est en fait une bulle qui excommunie non pas Napoléon lui-même, mais les auteurs de l'acte qui a consisté à intégrer Rome à l'Empire. Alors la réaction de Napoléon est quasi immédiate. Il est à ce moment-là en Autriche en train de faire la guerre aux Autrichiens. C'est la campagne qui est marquée par notamment la bataille de Wagram. Et il va donner l'ordre qu'on arrête le pape. Donc le pape est arrêté en même temps qu'une partie de son entourage et puis conduit en exil. Alors on ne sait pas trop quoi en faire. Il va venir jusqu'à Grenoble. Puis finalement, il repart en Italie et il va s'installer du côté de Gênes, à Savone, où il est en résidence surveillée. Et il y reste pendant 3 ans avant de partir à Fontainebleau. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que le pape, évidemment, ayant excommunié les auteurs de l'attentat commis, et évidemment, au passage, Napoléon, même s'il n'est pas nommé, cherche à faire connaître cette décision, qui est quand même une décision importante, même s'il y a eu des précédents dans l'histoire, c'est une décision importante. Mais Napoléon sait les effets que pourrait avoir une telle publicité pour son pouvoir, donc il interdit la publication de la bulle d'excommunication, évidemment par la presse qu'il contrôle, mais aussi par tout autre moyen, et les réseaux qui se constituent alors de prêtres autour de la congrégation, la fameuse congrégation et de ses filiales, ces réseaux où l'on va recopier la bulle à la main, à la chandelle, le soir, on va la diffuser dans des ballots à travers la France, mais finalement cette transmission ne permettra pas aux Français de connaître véritablement ce qui se passe. On peut dire que ni le clergé, ni les fidèles ne sont au courant de cette excommunication de Napoléon.
C'est quand même assez étonnant, ça prouve l'efficacité de Fouché, peut-être.
Ça prouve l'efficacité du contrôle de la presse, de l'efficacité de la police, puisque dès qu'on découvre un réseau clandestin, ben on essaye de le supprimer, on arrête les prêtres, c'était souvent des prêtres qui en étaient membres. Oui, ça prouve le caractère autoritaire de ce régime qui arrive à imposer ses choix et qui arrive à contrôler, alors pas complètement, parce qu'on ne contrôle jamais complètement l'opinion, mais qui arrive à contrôler une grande partie de l'opinion.
Lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez dit, Jacques-Olivier Boudon, que finalement, l'empereur et le pape étaient deux personnalités assez fortes, il faut bien le dire, plutôt fascinées l'une par l'autre.
La fascination, elle est réelle entre deux puissance, deux hommes qui ont conscience de leur puissance, Napoléon de sa puissance temporelle, il est empereur d'Occident, en quelque sorte, successeur de Charlemagne et des empereurs germaniques, et le pape lui aussi est tout à fait conscient de sa puissance, alors qui est une puissance plus spirituelle, une puissance qui est d'ailleurs renforcée. C'est un élément qu'on oublie parfois, qui est renforcé par ces années de difficultés, par aussi la figure par le martyr, entre guillemets, qu'il subit. Alors la fascination, elle est décelable dès 1804, au moment du sacre et de leur première rencontre, et aussi par la suite, et en particulier lors de la fameuse entrevue qu'ils auront à Fontainebleau, qui durera plusieurs jours au début de 1813, au lendemain de la campagne de Russie, lorsque Napoléon veut obtenir des concessions du pape, et le pape cède en partie, bien sûr parce qu'il est isolé, mais en partie parce qu'il ne peut pas résister à la séduction que laisse apparaître Napoléon.
À la fin de l'Empire, si l'on fait le bilan, finalement, la papauté s'en sort plutôt bien, notamment après les deux négociations de Vienne.
En 1814, tout d'abord, le pape n'a plus d'existence temporelle. Il n'a plus de pouvoir temporel au moment où Napoléon le tient encore entre ses mains, au début de 1814. Et à ce moment-là, son beau-frère Murat, qui est roi de Naples, a l'intention d'unifier l'Italie et se verrait bien mettre la main sur Rome. Alors Napoléon, qui est un habile, va renvoyer le pape dans ses états et Pie VII, donc il retourne en mai 1814, et il peut dès lors se prévaloir à la fois de sa résistance à Napoléon, du martyr qu'il a subi, entre guillemets, pendant ses années de captivité, et il peut imposer, ce qui n'allait pas de soi, la récupération de ses états pontificaux. De fait, il s'installe à Rome, il recouvre les états pontificaux dans leur intégralité, c'est-à-dire y compris la région de ce qu'on appelle la Romagne autour de Bologne, qui avait été intégrée au royaume d'Italie. Bon, il récupère toute cette région, c'est-à-dire que finalement, il retrouve à peu de choses près le patrimoine qui était le sien avant la Révolution. Sauf, il y a quand même une exception, c'est Avignon et le comtat venaissin qu'il ne retrouve pas. Il doit aussi abandonner la principauté de Bénévent qui était passée entre-temps à Talleyrand et qui sera négociée en faveur du roi de Naples. Mais pour le reste, il retrouve ses états et puis surtout, il retrouve une puissance qu'il n'a jamais sans doute eue à ce stade dans l'Europe pré-révolutionnaire. Tous les états le reconnaissent et veulent négocier avec lui des concordats, que ce soit les États catholiques, mais aussi les États protestants d'Allemagne, par exemple. Donc on peut dire qu'il sort grandi incontestablement de la période de la Révolution et de l'Empire.
Il fera acte de ce renforcement et n'aura pas de rancune envers Napoléon, puisqu'il accueillera, une fois l'Empire terminé, pratiquement la totalité de la famille Bonaparte dans ses États.
Il accueille dès 1814 Laetitia, donc la mère de Napoléon, Madame Mère, ainsi que le cardinal Fesch, donc le frère de Laetitia et l'oncle de Napoléon, qui était archevêque de Lyon et qui avait, à la fin de l'Empire, manifesté son soutien au pape, aux grandes dames d'ailleurs de Napoléon, qui l'avait renvoyé de la cour vers Lyon. Et puis, on verra aussi à Rome Lucien. Mais Lucien, c'est un exilé de la première heure, puisqu'il était venu à Rome chassé de France par Napoléon. On y voit Pauline. Et dans les années 20, on y verra arriver le frère de Napoléon, Jérôme, on y verra Hortense, Louis, puis ensuite Caroline un peu plus tard, quand l'Autriche acceptera qu'elle quitte l'Empire autrichien. Au total, c'est pratiquement toute la famille Bonaparte, en tout cas les frères et sœurs de Bonaparte, sa mère, son oncle, qui passent par Rome dans les années entre les années 1815 et les années 1830. Après, ça va se compliquer parce qu'une partie des membres de la famille se trouve impliquée dans les mouvements révolutionnaires des débuts de la décennie 1830. Et ils devront à nouveau partir, pour certains.
Merci Jacques-Olivier Boudon. Vous venez de publier, toujours chez Fayard, un très beau livre, très intéressant, qui est un prolongement de l'empereur. Finalement, c'est le roi Jérôme, frère prodigue de Napoléon. Merci beaucoup.
Merci à vous.